Chronique citoyenne avec Sébastien Saint-François.
Sébastien Saint-François, bonjour.
Bonjour Charles.
Comment vas-tu?
Ça va bien toi-même, fait chaud.
Fait chaud, ben on est bien dans nos studios, je ne sais pas, dans ton chalet, c'est de là que tu me parles. On a-tu le droit de le dire?
Oui, je viens
de toute façon, il est trop tard.
Même en Estrie, puis c'est ça, la clim fonctionne.
OK.
On va être correct.
Je t'inquiète.
Ben non.
Je dis, il est peut-être au bout de sa corde, là, il est peut-être fatigué, puis la fatigue, puis tout ça. Non, je suis content, je suis rassuré.
C'est quelque chose, hein, quand les nuits qu'on a eues, les dernières nuits, là, ouf, les gens qui n'ont pas la clim, là, c'est vraiment pas évident.
Oui, tout à fait. Hier, on a parlé, entre autres, avec la mairesse de Longueuil, de parler des itinérants.
Ouais.
Ce campement, là, où il y a une cinquantaine d'itinérants, ben, ça doit pas être facile présentement de ce côté-là.
Mon Dieu, non.
Alors, ben, commençons. Tiens, Ottawa, on parle d'une augmentation du taux d'inclusion des gains en capital. On est revenu la semaine dernière, Mme Freeland.
Ben oui, je voulais en parler la semaine passée, mais on a manqué de temps. Alors, c'est chose faite. Hein. On se rappellera que ça avait été annoncé par Mme Freeland lors du dépôt du budget, qu'on voulait hausser le taux d'inclusion. Donc, c'est jusqu'au 25 juin. Donc, le 25 juin, c'est mardi prochain, c'est 50% et ça va monter donc à 66,7%. Donc, les deux tiers. Autrement dit, si vous réalisez un gain en capital, les 66 et deux tiers de ce gain-là va être assujetti à l'impôt. Bon, pour les particuliers, bien sûr, il y a une exemption de la première tranche de 250 000. Pour les entreprises, c'est dès le premier dollar. Donc, on dit d'ailleurs que cette mesure-là va toucher quelques 40 000 personnes et quelques 307 000 entreprises. Donc, il y avait eu énormément de pression exercée par les milieux d'affaires après le dépôt du budget pour qu'elles reviennent sur cette mesure-là. On dit que ça va rapporter à peu près 20 milliards sur 5 ans, puis on veut s'en servir pour construire 4 millions de logements. Moi, ce qui me déplaît, c'est que ça a été fait très rapidement. On a laissé très peu de temps aux gens de se rajuster.
Si on a parlé à l'arrivée de M. Trudeau, il y a quand même quelques années, là, c'était dans les cartons, puis on l'a repoussé. M. Morneau l'a repoussé.
On l'a repoussé, mais là, on l'annonce au mois d'avril. Quelques semaines plus tard, on dit que ça entre en vigueur. Et je pense que beaucoup de gens ont de la difficulté avec cette décision venant d'un gouvernement qui, à ce jour, n'a jamais réussi à équilibrer ses livres. Le gouvernement Trudeau n'a jamais déposé un budget équilibré depuis qu'il est là. On lisait, tu en parlais dans ta revue de presse d'ailleurs, que beaucoup, ça commence à grenouiller dans les rangs libéraux. Il y en a beaucoup qui disent on s'en va à l'abattoir.
Ouais, puis on n'a pas le choix, c'est le meilleur.
Moi, je pense que Trudeau, l'ère Trudeau, c'est terminé. Ouais,
j'entendais
là,
hier. J'entendais une ministre hier dire c'est le meilleur débatteur, c'est le meilleur campaigner qu'on connaît, qu'on n'a jamais vu.
La population est fatiguée. La population canadienne est fatiguée pour différentes raisons. Sa fiscalité, soit plein d'affaires, tu sais, il y a plein d'affaires. Après autant d'années, c'est normal, dirons-nous. C'était la même chose à la fin de l'ère Harper. Mais bon, écoute, cette mesure-là, on va voir. Ça a passé au vote mardi dernier, donc ça fait l'objet d'un vote distinct, justement pour que tout le monde affiche ses couleurs, même si Mme Freeland dit non, c'est pas ça le but. Alors, tout le monde a voté pour, sauf les conservateurs. Est-ce que les conservateurs reviendront sur cette mesure-là une fois au pouvoir? On verra. On sait que Poilievre, il veut réduire les impôts, mais faut qu'il fasse un ménage terrible dans les finances publiques. Alors, je ne sais pas comment il va réussir à réduire des impôts puis à faire le ménage.
Mais s'il va dire un coup, lui, il va nous dire que c'était insoupçonné. Il y a des chiffres insoupçonnés, des déficits insoupçonnés.
Il ne peut pas vraiment dire ça parce qu'il n'arrête pas de dire que c'est un désastre.
Il va dire que c'est un ouragan, rien de moins. Puis, on ne peut pas rien faire pour baisser les impôts.
Il garde sa crédibilité aussi un peu. Puis, ce que je trouve aussi injuste dans cette mesure-là, c'est que si tu as un régime de pension qu'on dit agréé, donc d'un employeur, par exemple, t'es exempté. Mais si t'as constitué ton propre fonds de retraite, comme c'est le cas de moi et de bien des gens qui ont des entreprises incorporées, c'est dès le premier dollar que ça s'applique, le gain en capital. Donc, on pénalise les PME. Moi, je pense que ça va avoir des répercussions aussi sur la productivité, sur les investissements au pays, parce que déjà, ça devient moins intéressant d'investir ici par rapport à, par exemple, nos voisins du Sud. Donc, en tout cas, ça sera à suivre, mais c'est ça. On rajoute à l'assiette fiscale, hein, puis on continue de pomper de l'argent des mêmes poches, puis le bal continue. Puis on va voir voir si 4 millions de logements seront construits.
Oui, ça aussi, hein, on n'a pas planté trop bien. D'arbres, on voulait planter des milliards d'arbres, ça n'a pas été fait.
Il voulait faire pas sûr bien que les des logements choses, vont être construits. Trudeau. Ben, ouais, c'est ça, exactement.
Réflexion à ce sujet. Troisième lien, sérieusement?
Écoute,
je lis ton texte.
Oui, c'est ça, sérieusement, qu'un point d'interrogation. D'ailleurs, c'est sorti ce matin sur le site de Radio-Can. Ça a l'air que la décision était prise depuis des mois, soit depuis la défaite dans Jean Talon. On se souviendra, hein, depuis Jean Talon, là, c'est un peu n'importe quoi. M. Legault et la CAQ, ça tire dans toutes les directions. On a perdu notre boussole. Mais là, quand j'ai entendu l'annonce faite la semaine dernière, avec Drainville, Jonathan Julien, Mme Guilbeault, c'est les ministres importants, transport, Lévis, le député de Lévis, le ministre responsable de la capitale. Et puis là, on nous invoque tout d'un coup la sécurité économique et commerciale. Et ce qui a été mentionné, oui, dans le rapport de la CPDQ Infra, mais on citait des choses qu'on avait entendues. Oui, il y a des gens qui nous ont parlé de ça. Écoute, oui, en effet, en théorie, il y a une possibilité, on peut pas dire que c'est impossible, ça n'arriverait jamais, qu'il pourrait y avoir un problème avec le pont Pierre-Laporte, forçant sa fermeture, et donc ça serait très, 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 très important comme conséquence dans la région, parce que oui, c'est ça, à l'heure actuelle, c'est le seul lien autoroutier qui permet le transport des marchandises, donc...
Monsieur Legault,
plus de crédibilité là-dedans,
ouais, on a parlé du tablier du pont de Québec, ça a été évoqué, semble-t-il, qu'il y a des études sérieuses là-dessus qui dit que c'est faisable, mais il nous a rappelé qu'il n'était pas ingénieur et il nous a dit « je suis comptable » la semaine dernière,
Monsieur
Legault.
Oui, il est comptable, mais en même temps, il nous annonce une construction, puis on ne sait pas combien ça va coûter. Moi, je trouve, écoute, il essaie désespérément de garder ses comtés dans la région de Québec, mais il est en train, je pense, de se faire plus de temps.
On veut le tramway, puis on veut le pont, on veut tout. Il n'y a pas de problème.
J'ai vu passer sur Québec 125 le 17 juin, donc c'est lundi, un sondage. C'est le deuxième sondage à ma connaissance qui place la CAQ en troisième. Donc, on avait le PQ avec une possibilité de 61 sièges, le PLQ arrivé en deuxième avec 29, puis la CAQ en troisième avec 19 sièges. Ouais. Moi, je pense que le dossier du troisième lien, il est trop tard de toute façon. Il ne peut plus reculer, dans le sens qu'il ne pourra pas dire « OK, on a changé d'idée, on ne le fera pas ». Est-ce que ça va se faire, est-ce que les travaux vont commencer d'ici les prochaines élections, j'en doute, mais ça va sérieusement le miner pour la prochaine campagne électorale. Je pense qu'il y a énormément de dommages qui ont été faits sur le plan de la crédibilité. On se rappellera l'année passée, la ministre Guilbeault qui arrivait avec ses cartables, qui avait été envoyée au BAT pour dire non, il n'y a rien qui justifie un troisième lien. Et même dans le plus récent rapport de CDP, je vais-tu l'avoir?
Prends ton temps, c'est parce qu'il fait chaud.
C'est ça. Dit que non, l'achalandage ne justifie pas la construction d'un troisième lien à Québec. Écoute, ils vont traîner ça comme un boulet aux prochaines élections. Ça sera pas drôle.
Oui, puis en même temps, on oublie. Les gens de Québec qui vont faire...
On n'oubliera pas ce dossier-là, je pense, parce que, ils ont fait élection, ils ont fait deux élections là-dessus. Là, on arrive à la fin de leur deuxième mandat, puis bon, tout le cafouillage qu'il y a eu depuis des mois maintenant dans le dossier du troisième lien, je suis pas sûr que les gens vont oublier. Puis surtout, les oppositions n'oublieront pas.
En tout cas, c'est vraiment
n'importe quoi, là. Écoute, tu nous présentes ça comme ça, pow, puis t'as même pas de chiffres à nous donner, ça fait pas sérieux.
Je suis comptable.
Puis on sait que ça va être des milliards de dollars. Là.
Ben
ça,
oui.
Tout ce chiffre en milliards aujourd'hui.
Campement d'itinérants maintenant, si allons vers ça, difficile de la cohabitation à Longueuil puis à Montréal.
Deux actions collectives.
Écoute, à Saint-Jérôme, je pense, l'action collective, pas à Longueuil.
Non, c'est à Montréal. C'est,
oui, Montréal et Saint-Jérôme.
Moi, j'avais vu passer pour Montréal, dans ce qu'on appelle le secteur Milton Park. Ça fait des années que ça dure. On dirait que tout le système, puis là maintenant, on apprend à Longueuil aussi qu'on a des problèmes avec la halte du coin. On dirait que la société est en train de craquer de partout. Là, c'est un phénomène qu'on voyait il y a quelques années. On voyait ça aux États-Unis, des campements de sans-abri un peu partout dans les grandes villes et à côté de quartiers très cossus. On dirait que c'est partout. Là, dans l'espace de quelques années, les problèmes sociaux ont explosé. Et je ne sais pas vers quoi on s'en va, mais c'est inquiétant, c'est inquiétant. Et puis là, tu as des citoyens qui déposent des actions collectives et qui réclament de l'argent pour les désagréments vécus. On mentionne, les gens, ils font de tout, là, tout ce que nous faisons dans nos maisons, ils font dans la rue. Il y a des gens gelés, des gens qui sont pas là du tout, qui se promènent.
Oui,
je voyais l'autre jour à la télé...
À proximité, qui ont vu des
ben
enfants,
oui, il y avait des
enfants,
garderies. Je voyais des... Moi, comme je pense la semaine dernière, je disais que je vais pas très rarement à Montréal depuis plusieurs années, mais je voyais un reportage à la télé la semaine passée, je pense, et on montrait des gens qui mendiaient, mais qui étaient totalement gelés, qui se promenaient en plein milieu de la rue, ils titubaient. Les automobiles étaient obligés de les contourner parce qu'ils s'en allaient de partout. Moi, je ne me rappelle pas d'avoir vu ça.
Oh, moi, je l'ai vu.
Je l'ai vu. Que je peux aller.
Oui, attention, à là-dessus, je l'ai vu, mais il y en a plus. Ça, je peux en attester, mais je l'ai vu. J'ai habité Montréal pendant plusieurs années.
En tout cas, moi, j'avais jamais
j'ai vu
des
ça, choses,
honnêtement.
Mais bon, il faut se poser des questions. En fait, oui, ça craque de partout, mais la pandémie a mis le doigt sur bien des affaires, a changé bien des choses. Puis là, ben, c'est en train de... Des gens qui quittent leurs emplois, des trucs qui ne rouvent pas, des gens qui ont des problèmes de santé mentale puis il n'y a rien pour eux. Ben, on constate la consommation par tout ça.
Ça fait peur. On dirait que le tissu social est en train de se désagréger à bien des égards. C'est très inquiétant.
Oui.
Et je comprends que les villes ont des ressources limitées pour contrer, pour essayer de régler, de trouver des solutions. Mais il va falloir que les gouvernements travaillent ensemble. Parce qu'on peut, si ça continue de se dégrader ainsi, je veux dire, dans quel genre de société on va vivre d'ici quelques années? Là?
Ouais. C'est, des gestes s'imposent, évidemment.
Absolument.
Québec qui s'entend avec le syndicat des médecins de famille, syndicat entre guillemets, évidemment.
Bien, oui, c'est la FMOQ, donc la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, donc qui est en quelque sorte, oui, un syndicat
s'entend pour 12
qui est là
mois.
Pour représenter les intérêts des médecins. Donc, on se rappellera là, que depuis le 1er juin, donc les médecins refusaient de prendre des patients inscrits au GAP parce qu'on leur enlevait une prime de 120 $. Et puis, bon, on appelait ça le psychodrame. Les médecins eux-mêmes traitaient ça de psychogramme. Encore une fois, c'est la population qui était prise en otage dans tout ça. Donc, on a annoncé une entente. Donc, on s'est entendu pour une période de 12 mois. Donc, ça sera à recommencer en vue de l'année prochaine. Bon, on a réduit on appelle ça un forfait maintenant. C'est un forfait de 100 $. Donc, on verse aux médecins s'ils prennent des patients inscrits au GAP. Donc, encore une fois, on fonctionne à coup de prime. La différence, cette fois-ci, on dit que la moitié de cette prime, donc, il y a un 50 $ initial, puis un 50 $ qui est versé lorsque le patient est vu. Donc, il faut que le médecin voit le patient pour toucher la totalité de sa prime. Mais ça démontre encore une fois la corporatisation de notre médecine. Hein? À cette heure, quand tu vas voir un médecin, c'est un bobo à la fois. On ne parlera pas de deux bobos. Tu es venu pour un bobo. Il faut que tu reprennes un autre rendez-vous pour parler d'autre chose. L'histoire des primes.
Je te laisse aller, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi.
Ben, moi,
pour avoir vu un médecin récemment
gens...
qui a pris le temps de m'écouter puis sans problème. Là.
Ben, t'es chanceux. Je dis pas que c'est bon, toute la ligne, mais il y a des médecins, on entend des anecdotes, que c'est malheureusement, c'est un bobo à la fois, puis si t'as besoin d'autre chose, ben, tu réinscris, puis tu reviens.
Mais tu sais, c'est du cas par cas, je te dirais, parce que de dire que c'est tous nos médecins omnipraticiens, tous nos médecins de famille sont devenus corporatistes, c'est une autre affaire, mais il y a quand même un regroupement qui doit, à un moment donné, statuer sur des choses. Mais à l'intérieur de ça, il y a des médecins qui ont des pratiques admirables et exemplaires, qui travaillent très, très fort. Alors, il y a deux choses, là. Il faut être capable de dissocier tout ça. Des omnipraticiens qui travaillent pas fort, j'en connais pas.
C'est sûr que, écoute, moi, tu parles à quelqu'un qui n'en a pas de médecin de famille, qui consulte au privé.
Ouais.
J'ai un rendez-vous d'ailleurs le 9 juillet, mon bilan annuel. Donc, je vais sortir de l'argent, des centaines de dollars de ma poche pour aller voir le médecin. Elle est très gentille, ma médecin. Elle est très, très professionnelle, j'ai rien à dire. Mais je suis obligé de sortir de l'argent de ma poche chaque fois que je vais aller la voir, alors que je paye beaucoup d'impôts. Puis, on n'est pas en mesure de me fournir un médecin de famille. Fait que c'est sûr que je les regarde aller avec les primes, avec, tu sais...
Mais on n'en forme pas. On n'en forme pas autant qu'on devrait. On n'en forme pas,
ben,
il y a ça aussi.
Entre médecins, ils dénigrent la médecine de famille. Tu sais, c'est pas vu comme glamour. Là. C'est ben non, faut devenir spécialiste, voyons. Alors, on a un problème d'image aussi avec la médecine de famille.
Il y a du travail à faire de ce côté-là aussi pour la
rendre
plus sexy.
Parce que les besoins augmentent.
La médecine
ben,
c'est
de ça, famille. Sexy. Ouais. On a besoin de médecins de famille.
Et c'est crucial, c'est la porte d'entrée au système. Donc.
C'est absolument la porte d'entrée. Puis, tu sais, faut se rappeler aussi qu'on les forme. On paye cher pour leur formation parce que les médecins payent beaucoup moins cher ici pour se former qu'ailleurs, ne serait-ce que dans d'autres provinces. Mmh. Ça coûte beaucoup plus cher à suivre un cours de médecine. Donc, nous subventionnons, si tu veux, collectivement.
Mais ce n'est pas gratuit pour les étudiants et étudiantes non plus, il faut le dire.
Non, je ne dis pas que c'est gratuit, mais ça coûte beaucoup moins cher ici que d'étudier ailleurs.
Il y a un dialogue qui doit s'ouvrir, des pistes de solutions. Les pharmaciens, les spécialistes, la loi 67 qui va s'amener, les super infirmières aussi. Peut-être c'est un système qui est appelé à changer puis à voir les choses autrement.
En tout cas, Dubé brasse la cage. Il mise sur une très grosse réforme. Il faut espérer que ça porte fruit, mais... C'est ça. Oui. C'est une grosse machine à faire bouger.
Espoir, Sébastien. Espoir. Hey, bonne journée à toi. Bonne fête nationale.
J'ai entendu dire que tu prenais une petite semaine de congé.
Oui, une petite semaine de congé. C'est Dave Armeau qui me remplace la semaine prochaine.
Ça va te faire du bien. Alors, je te souhaite une bonne semaine.
Oui, puis je reviens après ça.
Début juillet. Parfait.
OK. Bye, Sébastien.
Salut.
Sébastien Saint-François.